Ah non, on peut pas le diffuser librement. Pourquoi tu voulais le passer à la télé?
Surtout pas. Non, surtout pas. Il y a des paroles qui engagent chacun.
Alors, ceci étant, le film avait été conçu et il a été tourné en toute connaissance de cause pour être projeté au Macval, au musée Macval. Il a fait l'objet d'une projection au musée Macval le 1er décembre 2014, comme je vous le projette ici, c'est-à-dire une projection avec public, tout à fait public, mais pas grand public. C'est-à-dire, il n'est pas à mettre sur YouTube, il n'est pas. Voilà.
Mais c'est intéressant ce qu'il raconte, parce que ce que je trouve aussi intéressant, c'est la dernière intervention de la dame qui dit à un moment donné moi, le terme handicapé, ça ne me plaît pas. Et en fait, quand on commence à discuter avec les jeunes et les moins jeunes, on a des adultes, c'est vrai qu'en fait, ils ont souvent une conscience extrêmement forte du handicap en réalité. C'est pas un truc. Ils ont la conscience réelle de ce qu'ils sont, en fait. On n'est pas dans une espèce d'inconscience, en fait, de la situation. Et ça leur pèse, quoi. Enfin, à un moment donné, ça pèse. Et ce qui est intéressant aussi là, en fait, c'est que dans la relation, on voit bien aussi ce qui émerge, le désir, l'amitié, l'affectivité. Et que c'est vrai qu'il y a un niveau de solitude aussi au niveau du handicap mental qui est extrêmement fort. Avec des gens qui... Alors avec des établissements, pas tous encore une fois, bon, je ne sais pas si ce que j'ai dit l'autre fois a fait scandale, mais je n'ai pas eu l'impression de dire des choses.
Non, ce n'est pas ce que tu as dit, c'est ce que l'agent a dit et sur lequel on a rebondi. D'accord. Comme quoi on ne leur permettait pas de modifier les objets dans leur chambre.
C'est des personnes, moi, si je suis vieux, que je vais dans un EHPAD, j'aimerais bien quand même mettre 2-3 trucs à moi, quoi. Et quand on veut se sentir bien, parce que je me rappelle la discussion avec la jeune femme, c'était que grosso modo, on leur disait, voilà, vous êtes chez vous. C'est exactement ce qu'on dit dans les EHPAD. Dans les EHPAD, on dit aux petits vieux qui arrivent, on leur dit, vous êtes chez vous. Bah ouais, vous êtes chez vous. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on leur dit, non, vous pouvez pas mettre ça, parce que les contraintes de sécurité, des choses comme ça, c'est pas possible. On peut pas se sentir chez soi si on n'a pas ces objets.
On a un règlement à chaque fois.
Bah oui, c'est ça. Il y a un moment donné où si on veut que les gens s'approprient quelque chose, il faut quand même qu'il y ait leur marque à eux. Moi, je sais pas, je pense que demain, je vais déménager, la première chose que je vais avoir envie, c'est de repeindre les murs. Quoi. Et puis, je sais pas,
personnalisé.
Et si, en fait, le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on entend entre nous, et en fait, qu'on n'entend plus, en fait, quand il s'agit de personnes qui sont, entre guillemets, fragiles. C'est-à-dire, en fait, on ramène quand même, c'est un peu le syndrome hospitalier, on ramène les gens, en fait, à leur syndrome, à leur problème, à leur handicap, et en fait, on finit par perdre qu'il y a des personnes qui, visiblement, ont un niveau de réflexion. Quoi.
Bien sûr. T'as vu, là, l'échange est un échange typiquement interculturel.
Bah oui, tout à fait. Et je pense que c'est des choses quand même qu'il faut prendre aussi en compte. On parlait de porosité tout à l'heure. Moi, je pense que l'idée de porosité, c'est effectivement pour moi une idée importante, parce que je crois que les différentes catégories sont beaucoup plus ouvertes qu'on ne le pense. En fait. Ouais.
Oui, il faut sortir de la déconstruction justement des catégories.
Ouais. Alors, je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, un peu pratiquement. Moi, je vois aussi comment ça se passe.
Oui, mais on est quand même dans une approche tellement.
On a aussi besoin.
Cartésienne, ouais.
C'est l'institution qui en a besoin.
Souvent, l'institution a besoin.
C'est l'institution, l'illustration, oui.
Ah, et puis, on a toujours besoin de mettre un peu d'ordre dans le monde, dans les catégories.
Il faut l'appréhender. On a besoin de ça.
Mais après, voir le continuum, je pense que c'est important aussi. C'est voir que c'est pas forcément si différent.
Oui, pour l'appréhender, je sais pas, c'est cette notion de handicapé. Ce qui me frappe dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'à l'admission, on a du mal quelquefois à faire le lien entre, enfin, à faire le tri entre déficience intellectuelle et déficience sociale. C'est quand même grave. Parce que finalement, on va handicaper le social.
Et en fait, on peut même avoir des suivis dans des secteurs, dans des établissements, dans des services comme les nôtres, qui sont des suivis sociaux, en fait, pas en fait des suivis médico-sociaux. Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas, parce que c'est aiguillé par la MDPH, parce que les écoles ne savent pas comment s'en sortir, parce qu'un tas de choses comme ça. Et en fait, on a des gamins qui ne ressortent pas forcément. On a une jeune fille comme ça. Franchement, moi, je l'ai croisé. C'est peut-être aussi parce que moi, j'ai une vision un peu, peut-être pas banalisée, mais c'est vrai que ça me choque moyennement, quoi. Et franchement, il y a un moment où je me suis demandé pourquoi elle était là, quoi. Qu'est-ce qu'elle avait, quoi. Par contre, là, par rapport à ce qu'on a vu là sur la sexualité, nous, on a eu un cas d'une jeune fille qui est vraiment passée à l'acte, parce qu'il y avait un désir d'enfant extrêmement fort, et qui a disparu pendant 2 mois. 2 mois, et qui est revenue enceinte. Mais vraiment. Parce qu'à un moment donné, elle avait ce désir-là, c'était exprimé, c'était dit, dans les termes un peu là qui sont dits là. Et en fait, elle a fugué pendant 2 mois. C'est la police qui l'a retrouvée, mais effectivement, quand la police l'a retrouvée, en fait, elle attendait un bébé. Donc elle avait réussi son coup.
Et elle l'a gardé, le bébé, ou...
Ben, ça, c'est une des questions, ça, si tu veux, c'est après.
C'est après.
C'est après, ouais, ça.
Parce que la question, elle est compliquée, ouais. Hein. C'est une question qui n'est pas évidente. Et là, en fait, nous, en tant qu'établissement, en fait, on a une responsabilité. C'est-à-dire que la question du handicap, c'est une prise de risque mental, je trouve, c'est une prise de risque. Hein. Enfin, c'est-à-dire que l'autonomie, la prise d'autonomie, c'est une prise de risque. Et là, il y a une prise de risque. C'est-à-dire que, voilà, est-ce qu'on doit, et ça, c'est une question vraiment éthique pour le coup, et que dans laquelle nous, on essaie de débattre, on essaie de retrouver nos petits. C'est est-ce qu'on doit à un moment donné autoriser une jeune fille à avoir un enfant? Ça a été une question très forte à ce moment-là. Parce qu'on ne savait pas si la famille pouvait en fait prendre en charge, on ne savait pas si elle pouvait prendre en charge. Il y a quand même tout le soin au nourrisson, par exemple, qui est important. Est-ce qu'elle a la capacité en fait de donner ces soins-là? C'est des questions qui sont importantes parce qu'il ne s'agit pas non plus de donner un bébé à une jeune fille qui ne va pas pouvoir assumer le bébé. On va faire un enfant du coup, qui va lui avoir d'autres problèmes. Et on n'est pas là non plus pour générer d'autres problèmes sur notre génération, quoi. Et c'est des problèmes qui sont extrêmement complexes, en réalité.
Ah, tout à fait.
Et, et là, les réponses pratiques, parce que derrière, il y a une réponse pratique, c'est pas une question... c'est pas que de l'éthique, c'est une question pratique à la fin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Et comment on les amène, effectivement, à cette autonomie? Mais je pense qu'il manque aussi des structures. C'est-à-dire, on pourrait imaginer des structures, par exemple, voilà... avec des nurseries, avec de l'accompagnement, mais ça n'existe pas.
Non, ce qui se passe, c'est que les enfants sont placés.
Bah oui.
J'ai eu deux situations cette semaine. En fait, j'avais demandé une synthèse parce que justement, pour essayer d'avoir. Comment dirais-je, on essaye, nous, un peu de croiser les regards. Et donc, par rapport à cette situation, on avait convoqué la protection de l'enfance, les services sociaux. Le côté médical, médecin psychiatre, enfin bref, etc. Et je parle des deux situations, même si dans les deux, les enfants sont placés. Dans l'une, on va dire que il y a les aînés, les enfants, les aînés qui ont déjà des soucis. On pense que. Et puis ceux qui ont été placés plutôt très très jeunes, les plus jeunes, sont maintenant dans le circuit de la scolarité, etc. Tout à fait, chose normale. Mais avant d'arriver à ça, c'est vrai que des parents étant justement dans une espèce d'errance, il y avait rupture d'hébergement, donc hébergement à l'hôtel, et les enfants sont restés avec les parents quelques années.
Oui,
parce qu'on n'arrivait pas à trouver des solutions. Parce que quand je dis on, c'est-à-dire l'ensemble, tout cet ensemble-là, et qu'on se posait beaucoup de questions sur le placement, savoir que ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc ça a vraiment été vraiment extrêmement compliqué.
Et je crois que c'est encore plus compliqué en situation de handicap, parce que là, on se rapproche de l'eugénisme. Et ça a été largement pratiqué, absolument. Largement pratiqué.
Ça a été pratiqué. Hein. On a stérilisé des générations de jeunes femmes handicapées, mentales principalement.
Là, non, elles ont pu avoir.
Oui.
Les deux ont des problèmes, j'ai pas parlé des parents, ouais. Mais les parents ont des problèmes de déficience.
Par contre, qu'en fait, l'halte garderie qu'on a, en fait, c'est une halte garderie qui fait un accueil de 30% d'enfants en situation de handicap, tout handicap confondu. Et en fait, il y a un couple de personnes en situation de déficience intellectuelle, en fait, le couple, qui ont eu un enfant, effectivement, qui finalement, en fait, ont une parentalité qui est assez proche de la normale, enfin, en tout cas ça fonctionne. Et en plus, bon, bah, comme nous, on des enfants en situation de handicap, la directrice et l'équipe, bon, bah, ils ont repéré les parents en question, donc il y a une espèce de suivi un peu informel comme ça qui se fait, et finalement, ça marche pas mal, quoi. Ça marche pas mal. Enfin, ça marchait parce qu'il y a quelques années.
Mais lorsqu'on trouve, lorsqu'on peut s'appuyer sur la famille ou sur un réseau, c'est vrai qu'on le fait.
Et il faut un réseau, ça c'est clair, c'est pas forcément quelque chose où on doit on peut pas laisser les gens.
Et qu'on défend nous-mêmes. Hein, donc,
c'est une question de responsabilité par rapport aux enfants. Ouais, c'est clair.
Moi j'ai eu un couple après les deux enfants, la maman, donc tous les deux déficients. La maman avait un désir d'enfant. J'avais repéré qu'elle avait un désir d'enfant. Attends, entre ça, mais en même temps, les deux autres, les deux étaient placés, les parents étaient dans une situation de précarité, etc. Et elle voulait. Et cette maman voulait un troisième enfant. Alors, ça, c'est possible. Et du coup, c'est le médical hein, qui a pris.
Bah ouais, c'est ça.
Et oui.
Et là, c'est peut-être un peu dommage.
Le médical qui a pris. Mais en se basant sur l'histoire familiale, sur déjà, on va dire, les termes utilisés, les dégâts causés déjà par les carences éducatives sur les deux enfants qui étaient extrêmement carencés et déficients. Voilà, clairement. Et donc, les parents qui n'étaient pas en capacité vraiment de prendre en charge, même avec un accompagnement éducatif, avec un accompagnement, donc étaient débordés par leur propre pathologie, etc. Voilà.
C'est pour ça que c'est au coup par coup.
C'est compliqué.
C'est très très compliqué. De toute façon, c'est compliqué. On peut pas. Je pense pas qu'on puisse avoir une réponse unique à ça. C'est-à-dire qu'il y a une question de respect en fait de la personne avec en fait ce qu'elle porte globalement en fait.
Et son désir.
Je pense que son désir. Ouais. Alors on peut respecter son désir sans forcément aller dans le sens de son désir. Mais à partir du moment où on va pas dans le sens de son désir, faut trouver le moyen d'expliquer quoi. Ça manque à la fois en amont pour expliquer que c'est éventuellement possible et que ça se prépare, et ça manque en amont pour expliquer que c'est pas possible et qu'il faut préparer autre chose. Voilà, c'est peut-être aussi toute cette partie-là en fait, qu'on n'a pas, et du coup, en fait, la solution échappe aussi aux principaux intéressés. Quoi. C'est un peu souvent pas ce qu'on a.
Mais je crois qu'il faut qu'il y ait plusieurs regards et qu'il y ait des équipes pluridisciplinaires qui interviennent, parce qu'on peut arriver à ça, je peux vous dire.
Cas où ça se passait bien. Enfin voilà, c'est une question de respect en fait.
Mais c'est surtout une question de respect de l'autre.
Ah oui, ça.
Bah oui.
Tout à fait.
Bah oui.
En tout cas, je sais pas. Étienne, tu voulais intervenir tout à l'heure.
Le problème de porosité.
Oui.
Parce que je pense que, de manière un peu étrange, c'est un concept central de la théorie du pluralisme juridique à l'échelle mondiale. Qui travaille donc sur la manière selon laquelle différentes expériences du droit, mais de la juridicité en fait, de manière.
C'est rose.
Au lieu d'être pensées comme contradictoires, sont en fait en articulation les unes par rapport aux autres, et qu'en fait, entre la connaissance que nous avons des normes générales et impersonnelles, et la manière dont nous les appliquons presque de manière, en tout cas de manière habituelle, et très souvent de manière non réfléchie, il y a tout un continuum où les grandes théories canoniques oppose les grandes les conceptions, par exemple, droit moderne, droit traditionnel, des tas de choses comme cela. Et en fait, on s'aperçoit que nous sommes tous des traditionnalistes d'une certaine façon, c'est-à-dire que nous avons tout un ensemble de pratiques et au-delà des apparences d'un discours typé, stéréotypé, etc., en fait, pense que ces articulations se font de manière tout à fait... habituelles au sens des habitus de Bourdieu. Mmh. Et que donc, ce qu'il faut, c'est abandonner nos idées que nous avons des invocations canoniques fondamentales et que tout est autour des habitus, des systèmes de disposition durables de Bourdieu. Et c'est là où se situe le mystère, en fait, de la créativité au continu, des rapports à tout ce qui fait la normativité au sein d'une société. Alors, je suppose qu'il y a des tas de choses qui sont assez proches de ce que toi, tu es...
Oui, je pense comme ça, oui, intuitivement, oui, parce qu'en fait, moi, l'idée de porosité, je ne sais plus trop où j'avais pêché ça, mais j'avais utilisé pour autre chose. Alors, je ne sais plus exactement quoi, j'en suis désolé, parce que c'est mon côté un peu papillonnant, ça. Mais je pense que c'est important, parce que je crois qu'on voit effectivement... J'ai un truc en tête qui va peut-être te surprendre un peu, mais en fait, j'ai Gilbert Durand en tête au moment où on parle de porosité. Mmh. Et en fait, quand il écrit les imaginaires diurnes et nocturnes, à un moment, il parle d'imaginaire gliscomorphe. Alors, gliscomorphe, c'est un espèce de terme assez compliqué, en fait, pour expliquer que finalement, il y a une espèce de colle, quoi, qui fait que les choses sont collées entre eux, entre elles. En fait, c'est vrai que l'idée de coller, c'est pas forcément ça. Moi, je crois, en fait, effectivement, qu'il y a beaucoup plus de passages, en fait. Il y a beaucoup plus de passages que de ruptures. C'est-à-dire, en fait, on peut organiser, on peut essayer de voir le passage plutôt que d'essayer de voir ce qui tranche pour comprendre, en fait, à nouveau Gilbert Durand. Mais, en fait, voir plutôt ce qui va relier. C'est-à-dire, comment on peut relier les choses. Et j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup de points, en tout cas, d'un point de vue sociologique, on est vraiment sur des catégories. On a peut-être besoin de ces catégories, effectivement, pour donner un petit peu de sens au monde qu'on a autour de nous. Mais il y a un moment donné où il faut essayer de les penser aussi dans cette capacité finalement de se prolonger les unes dans les autres. Et je crois que le handicap pour moi en tout cas, et comme je l'ai vécu aussi, parce que mon fils est déficient intellectuel, mais il n'est pas non plus, il est un peu comme le jeune homme là, qu'on a vu là, ou la jeune fille, c'est-à-dire il a à peu près, je pense, le même niveau. C'est-à-dire que Adrien, il peut avoir 21 ans sur certaines choses. Autrefois, il a une discussion, j'ai eu une discussion avec lui, j'avais vraiment un jeune adulte en face de moi. Et puis, quelquefois, quand il joue avec son frère de 12 ans, j'ai un gamin de 12 ans en face de moi. Quoi. C'est, je suis obligé de réguler les relations entre les deux frères. Parce que voilà, quoi, ça se passe de manière un peu conflictuelle quelque part. Mais voilà, moi, mon expérience est celle-là. Je vois aussi un petit peu ce que je peux voir dans les institutions que je visite à plusieurs niveaux. Parce que, bon, entre autres fonctions, je fais aussi tout ce qui est qualité dans le médico-social. Donc, je vais dans les associations. À la fois les CHRS, à la fois les EHPAD, à la fois le placement familial. Du coup, en fait, je vois un peu comment les choses se passent aussi quand on interviewe, par exemple, des jeunes. Et j'ai le sentiment qu'on veut absolument séparer. Alors, il y a besoin, vraisemblablement, d'un moment donné, de séparer les populations. Mais je pense qu'il y a un besoin aussi, à un moment donné, de se dire qu'on n'est pas forcément dans cette absence de lien. Et je pense que plus on sépare, plus on stigmatise en même temps. C'est-à-dire, plus on dit, ben voilà... On voit bien la dernière dame qui dit oui, voilà, moi, en gros, elle en a marre, quoi, visiblement, qu'on lui dise qu'elle est handicapée, quoi, c'est évident. Je veux dire, ben voilà, il y a un moment donné où finalement, il y a un truc défendait à un moment donné, comment il s'appelle, enfin, un des types de SOS racisme qui est au PS maintenant, enfin, depuis longtemps d'ailleurs, c'est l'idée de droit à l'indifférence. En fait, il disait, voilà, pour les jeunes immigrés, il faut un droit à l'indifférence. Moi, je crois beaucoup au droit à la différence. Foutons la... Ouais, my booty. En fait, il y a un moment donné, en fait, il y a besoin de ce droit à l'indifférence. Foutez-nous la paix. On est effectivement différents, mais à la limite, arrêtez de vous occuper de nous, quoi, jusqu'à un certain point. Et laissez-moi... Je ne peux pas trop dire ça, parce que derrière, on aurait des pouvoirs publics qui sauteraient sur l'occasion en disant « Surtout, ne faisons plus rien. Surtout, pas tomber. » Mais en même temps, moi, j'avais entendu, quand dans leur histoire de cartes personnes handicapées des gamins... En gros, foutez-nous la paix. Quoi. C'est des mômes, ils sont, comment dire, surmédicalisés, suraccompagnés.
Oui, les mots sont durs.
Il y a un moment donné où ils en ont marre. Quoi. Ils ont besoin aussi qu'on leur fiche la paix, qu'on les laisse faire et qu'on leur fasse confiance. Quoi. Alors, facile à dire, moins facile à faire. C'est-à-dire que ça, c'est quand même ça peut être un slogan, mais après, là, il y a la réalité du terrain, elle n'est pas du tout pareille. Et ça, il faut être clair aussi là-dessus. Tout n'est pas possible avec tout.
Moi, j'avais ce printemps, j'avais un groupe d'enfants avec un gamin qui n'avait pas son AVS. Il m'a pourri le groupe.
Ah, bah oui.
L'AVS n'était pas là, c'était la grève, je sais pas. Donc, j'ai eu le gamin, il y a les 12, c'était complètement pourri.
Ouais.
Complètement.
Mais ces mécanismes-là, sur le plan intellectuel, droit à l'indifférence, droit à la diversité, à la reconnaissance de la diversité, s'opposent à une structure cognitive, logique, au cœur de la pensée occidentale, qui est le principe du contraire.
Ouais.
Et pour qu'une explication puisse être raisonnablement reçue, elle doit se construire sur la base d'un schéma en fait duel dans lequel l'un est le contraire de l'autre. Et Aristote a été l'auteur qui a le plus, disons, intégré ce schéma discursif au cœur de nos systèmes de pensée. Elle aboutit à en fait un discours monologique, puisque en pensant l'autre comme le contraire de soi, on réintroduit l'idée du un comme étant au cœur de tout, et donc tout ce qui sort du un est, doit être chassé de la... Donc il y a des explications d'un point de vue anthropologique extraordinairement passionnantes, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce qui est important, c'est que quand on veut tenir compte de la différence et de la pluralité, on est donc obligé de contester ce principe du contraire et d'essayer d'introduire à la place le principe de la complémentarité des différences, qui est, alors dans le pluralisme juridique par exemple, un des enjeux les plus passionnants, mais qui naturellement est totalement contesté par les tenants de toutes les pensées canoniques, etc. Alors, tout ça, quand je t'écoutais, si tu veux, je me disais, mais comment, à partir de ce que tu nous as dit, regard est susceptible, à propos de ces problèmes de porosité, et donc de porosité dans les phénomènes d'interculturalité, de continuer à réfléchir à ces questions-là, qui me semblent être absolument au cœur de notre ambition, quoi. Et alors, bien sûr, tu as un peu répondu, on comprend quelles sont toutes les difficultés que chacun d'entre nous, travaillant dans l'interculturel, le vit de manière constante, cette impossibilité de faire accepter cette complémentarité des différences, parce que derrière, il y a ce mécanisme qui est si fondamentalement associé à notre système éducatif, qu'on ne peut pas songer qu'on puisse s'en passer. Or, il est totalement vicieux.
Et je pense qu'il est reposé.
Il est vicieux dans la perspective d'une société qui découvre la complexité comme inhérente à des modes de vie, qui se rend compte que ça a toujours été comme ça, mais qu'on a eu pendant plusieurs siècles l'ambition de construire quelque chose de totalement uniformisant, construit, intégré, etc. Et donc, maintenant, on comprend qu'on est dans des situations complexes et qu'on ne pourra plus jamais en sortir, que le pluralisme en est la condition, que la complémentarité doit passer par ça, et on est là en train. Et c'est là où, sincèrement, ce que tu nous as dit ce matin est extraordinairement précieux.
Je te remercie.
Je sais pas, je pense que...
tout à fait, c'est pour ça que...
Pour moi.
Non, tout à fait. Mais je pense qu'il faut qu'on l'approfondisse. Il faut qu'on l'approfondisse parce que, à mon avis, c'est une piste de travail extrêmement féconde.
Mais dure, hein.
Dure.
Moi, je suis attaqué là-dessus au cœur.
Mais c'est intéressant parce que je pense que... peut-être qu'il y a aussi un effet mosaïque. C'est-à-dire, je crois qu'il y a des choses qui sont un peu partout aujourd'hui. Et qu'il faut réussir. Alors peut-être que du coup, on regarde effectivement un rôle à jouer, parce qu'il y a peut-être des choses, parce que tu parlais du droit, moi je vois ça de mon petit niveau, de ce que je peux voir du médico-social, du handicap et autres. Et je pense qu'il y a peut-être aussi besoin de collecter les forces à un moment donné. C'est-à-dire que je crois qu'on a, enfin, c'est peut-être aussi de la stratégie à avoir.
Il y a trois personnes qui m'ont communiqué là-dessus et qui, à mon avis, illustrent bien les enjeux. Dominique Terre, qui vient généralement n'est pas venu. Je pense que la psychanalyse s'est sentie un petit peu menacée par ce genre de discours, à mon avis. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense. Et donc là, voilà, ça pose en jeu, c'est la directrice du CMDP de Vitry.
D'accord.
Qui vient tout le temps, qui est très très active. Et aujourd'hui, elle n'est pas venue, elle ne m'a pas dit qu'elle ne viendrait pas. Donc je pense qu'il faut en tirer un signe. À mon avis, c'est un signe. Et tu l'as parlé sur l'autisme.
Ah.
Oui, je pense que c'est un signe. J'ai eu Bernard Topus, je ne sais pas si tu le connais, médecin qui était directeur de la PMI et qui est un grand militant de la Mad Pride, tu sais, qui est la marche des couples, donc, que j'ai faite avec lui, donc justement pour réinscrire les malades mentaux dans la cité qui font donc la marche des fiertés des fous, hein, la Mad Pride.
Oui, d'accord.
Et qui malheureusement m'a dit, c'est vraiment dommage, j'aurais vraiment voulu être là, mais je peux pas parce qu'il a les entretiens de Bichat en ce moment, donc lui il serait prêt à mon avis à contribuer. Et Isabelle Chabin-Gibert, dont je parlais tout à l'heure, qui s'occupe de la précarité à l'ARS, et qui me dit, malheureusement j'aurais vraiment voulu venir parce que je suis concerné à la maison par ce type d'interculturalité. Donc à mon avis, ça, le germe quand même est là. Il faut qu'on l'approfondisse, mais il faudrait qu'on justement on cerne un peu mieux les enjeux autour de la psychanalyse. En quoi est-ce que ça les dérange, ce type de réflexion?
Moi, je ne vois pas la dangerosité en général à laisser la parole aux gens, mais bon, après, chacun y voit.
Mais non, mais parce que la psychanalyse a été beaucoup attaquée.
Beaucoup attaquée sur l'autisme.
Et c'est comme mon cœur. Et qu'on a vu arriver d'autres formes de thérapie. Des méthodes qui, par exemple, il y a eu la méthode ABA, moi j'ai appris par une collègue qui travaille beaucoup, on savait, qu'au final elle est presque abandonnée. Ça prend un peu longtemps finalement et c'est en train de partir. Donc c'est une méthode comportementale. Et y a tout ce qui se développe sur le plan des sciences cognitives et sur le GIEC,
précisément,
qu'on est en train de chercher.
Moi, je pense que ça serait peut-être le sujet du prochain samedi, de poser les enjeux du débat.
On ne sait même plus où on en est.
Qu'est-ce que tu en penses?
Il y a beaucoup d'enjeux.
Oui, essayer de poser les enjeux, justement.
Tout ce qui est autour des neurosciences prend pour moi. Moi j'apprends des choses là, on m'a pas appris ça il y a 30 ans, et là je vois que ça se développe énormément, ça prend...
Il y a plusieurs méthodes de comportementalisme, il y a ABA, il y a Teach, en fait qui viennent pour l'essentiel.
Et surtout les neurosciences.
On part du principe en fait qu'il y aurait effectivement un problème d'ordre physique,
organique. Du coup la psychanalyse, elle se retrouve. Sauf qu'à mon sens, il faut aller vraiment vers une psy plutôt intégrative, hein, parce qu'on ne peut pas rester non plus à la marge de tout ce qui se fait. Il y a des apports qui sont intéressants, il y a un travail sur les émotions, sur les comportements, sur des choses comme ça, qui sont quand même intéressantes. C'est mon combat. Je sais que je suis un peu seule.
Mais en sachant que le combat est quand même inégal.
Tout mon parcours, ça a été ça.
Le combat est très, très, très inégal. Parce que les neurosciences, c'est le rouleau compresseur de la statistique et du causalisme simpliste. Ça brille là, bah c'est ça. Les sept péchés capitaux. Bill Gates investit là-dedans à fond. Et l'objectif, c'est de pouvoir implanter, faire des électrodes cérébrales pour lutter contre les addictions. C'est écrit noir sur blanc.
Il y a déjà aux États-Unis des implants pour les soldats de prévu pour leur améliorer les performances
cognitives.
Tout ce qu'on fait
avec les recherches sur le cerveau, on va vers quelque chose d'incroyable.
On est sur le terrain presque dépassé par tout ce qui nous arrive.
On est dépassé. On est dépassé parce que c'est un rouleau compresseur.
Ça va très très vite.
Le robot qui remplace le geste du médecin, on croit finalement le médecin lui a son. On croit plus à la faillibilité des technologies, finalement, des sciences, que...
Forcément, parce qu'on a protocolisé aussi toute la médecine.
On présuppose...
La protocolisation, c'est une informatisation.
Oui.
C'est une informatisation, donc les deux convergent.
Oui, complètement. C'est les NVIC, comme ils appellent.
Mais regarde sur le dernier rideau de résistance.
Il y a tout un champ, là.
Tu proposerais qu'on en passe l'objet d'une de nos réunions de début 2017.
Début 2017, qu'on approfondisse cette notion et qu'on l'envisage sous d'autres perspectives. Donc la perspective sociologique telle que tu viens de le faire, mais la perspective psychanalytique et la perspective de TCC, cognitivo-comportementaliste. Voilà, qu'on fasse... Bon, là, il faudra arriver avec les Kalachnikov et les gilets pare-balles.
En tout cas, tu me diras, je viendrai avec des...
Oui. Ben, c'est... Je sais pas. Est-ce qu'on retient l'idée?
Oui.
La date est déjà fixée pour avoir la...
C'est quand?
C'est...
Oui, on a des réservations pour...